Le magazine Femina de VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge pour vous présenter le magazine au féminin de VOA Afrique. S'adressant à des religieuses le 12 mai dernier, le pape François a répondu par l'affirmative à l'une d'entre elles qui lui demandait s'il était possible de créer une commission pour étudier la question de l'éventuelle ordination des femmes diacres, selon l'Osservatore Romano, le journal du Vatican. Des historiens ont rappelé l'existence dans les premiers siècles du christianisme de diaconesses travaillant avec les hommes. Une information confirmée par le professeur Augustin Messomo, docteur en théologie et vice-doyen de la faculté de théologie à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé.
Oui, ça, je le confirme tout à fait. C'est-à-dire, lorsque nous lisons la Bible, il est fait mention des femmes qui ont joué un rôle parfois de premier plan dans certaines communautés. Nous avons le cas de Lydie qui s'est révélée très active à Éphèse. Avant l'arrivée de Paul, nous avons le cas de Priscille, le cas d'Aquila qui ont assumé des rôles de premier plan. Nous avons le cas de Phoebe à qui on attribue même le titre de diaconesse dans le chapitre 16, verset 1.
Alors, comment expliquez-vous le fait finalement qu'aujourd'hui ce ne soit plus le cas?
Il faudrait d'abord, c'est une question d'interprétation, c'est-à-dire on ne peut pas certifier que le rôle joué par les femmes dans l'Église primitive, que ce rôle-là correspond exactement au ministère qu'exercent les diacres dans l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire les diaconats comme premier degré du sacrement de l'ordre, pour la simple raison que le mot diaconat, diacre, renvoie d'abord à service tout simplement. Et nous avons le mot ministère. Donc, tout ministre est diacre, au sens de serviteur. Alors, lorsque, par exemple, Paul appelle sur le diaconesse, on ne sait pas si le titre diaconesse connote du sacrement, le premier degré du sacrement de l'ordre qu'exerce les diacres dans l'Église. Mais que les femmes aient joué un rôle de premier plan dans les premières communautés, dans l'Église primitive, ça c'est reconnu par les épîtres du Nouveau Testament, par le livre des Actes des Apôtres.
L'historienne Lucetta Scarafia a dit « Il y a beaucoup de femmes qui font le boulot d'un diacre, mais ce n'est pas reconnu parce qu'elles sont des femmes. » Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion?
Je ne dirais pas exactement cela, parce que le rôle du diacre dans l'Église aujourd'hui, il y a le diacre comme serviteur, c'est-à-dire le diacre qui exerce un ministère du service. Par exemple, dans la société occidentale aujourd'hui, nous avons de nombreux diacres permanents qui exercent dans ce que le pape appelle dans la périphérie de l'Église, c'est-à-dire le milieu hospitalier, auprès de laisser pour compte de la société, dans les zones difficiles et autres. Les diacres permanents assurent la présence de l'Église dans ces lieux-là. Alors là, on peut dire que les femmes jouent également un certain rôle. Donc là, on peut dire qu'il y a un aspect du ministère diaconal de l'Église. Mais maintenant, l'autre aspect, je dirais sacramentel, c'est-à-dire le rôle que les diacres peuvent jouer dans la liturgie, par exemple la prédication, par exemple la célébration des sacrements, ce rôle-là, les femmes ne l'exercent pas dans l'Église. Le droit canonique stipule au canon 1024 que seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée. Et le premier degré de l'ordination sacrée, c'est justement le diaconat.
Le pape François a dit, ça c'est encore la presse qui le dit, a dit qu'une femme pourrait un jour diriger un dicastère de la curie. Déjà, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est qu'un dicastère?
Les dicastères sont tout simplement des services, un peu comme les ministères dans un État, qui aident le pape à l'exercice de son ministère pécunien. C'est-à-dire les dicastères aident le pape en tant que chef d'État, l'État du Vatican, disons-le comme ça. Donc, les services sont organisés à ce niveau-là, justement pour servir les liens entre le pape et les églises particulières, mais aussi entre le pape et les États. La plupart des dicastères sont dirigés par les cardinaux.
dans l'Église réformée, notamment bon, l'Église luthérienne, l'Église évangélique, des femmes hein, sont pasteurs, n'est-ce pas? On a même en Allemagne une femme évêque. Hein. Là, ce serait une question un petit peu plus philosophique ou politique que je vous poserais. Est-ce que, selon vous, le Vatican n'aurait pas intérêt à se réformer un petit peu, dans le sens où, finalement, comme vous le savez très bien, je pense, il y a de nombreuses défections au sein du catholicisme en faveur du protestantisme, parce que justement les femmes peuvent accéder à des postes élevés en hiérarchie.
Bon, je n'ai aucune statistique là-dessus, madame. Il faudrait reconnaître que ce qui ressemble exactement de l'ordre dans l'Église catholique romaine, j'entends diacres, prêtres et évêques, ne sont pas à comparer avec les pasteurs dans les églises issues de la Réforme, pour la simple raison que les églises issues de la Réforme ne reconnaissent pas le sacrement de l'ordre. Donc, on ne peut pas assimiler purement et simplement le rôle du prêtre, du diacre, de l'évêque de l'Église catholique au rôle des pasteurs dans les l'Église issue de la Réforme, ou si les Églises de la Réforme ordonnent les femmes, ce qui se fait depuis plusieurs années déjà, cela ne devrait pas directement amener l'Église catholique à adopter la même politique.
Si cette commission a été créée pour étudier la question, dans l'Église romaine, vous n'avez pas de femmes à des postes élevés en hiérarchie. Donc, lorsque vous créez ce type de commission, qui sont les femmes qui participent exactement?
Ce dont on a besoin à ce niveau-là, ce n'est pas des gens qui sont forcément ordonnés. C'est des gens qui ont une expertise en théologie. Or, aujourd'hui, nous avons des grandes théologiennes, des femmes qui brillent dans le domaine de la théologie. Donc, on pourrait les associer. C'est-à-dire, la commission serait composée d'experts en théologie, en fait. Donc, cela qui reprendrait la lecture de la Bible de façon méthodique, de façon critique, de façon rigoureuse. Bien sûr, il pourrait y avoir des historiens de l'Église qui verraient justement que dans l'Église primitive, il y avait un ministère qui émergeait, qui disparaît à un moment donné, peut-être pour réapparaître sous une autre forme, à un autre moment. Il y aurait des théologiens, des ecclésiologues et autres. Le critère ne pourra pas être l'ordination.
Toutefois, lors du dernier synode hein, des évêques sur la famille en octobre, les observateurs ont remarqué la quasi-absence de femmes dans les débats. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas un handicap, ça, pour l'Église catholique, finalement? Surtout quand on parle de famille, la femme est concernée quand on parle de famille, n'est-ce pas? C'est elle qui donne la vie.
Oui, le synode n'a jamais été l'assemblée, la rencontre de tous les chrétiens indépendamment. Le synode, d'abord, c'est le synode des évêques. Mais depuis les institutions du synode, on fait un effort progressif pour que les évêques ne se retrouvent pas seuls à réfléchir à des sujets, mais qu'on associe des laïcs qui ont une certaine expertise sur la question abordée, sur le sujet abordé, qu'on associe les femmes, qu'on associe des couples. Par exemple, je crois que le dernier synode, c'était même pas une question d'associer seulement les hommes.
Le pape François donc a bien réaffirmé qu'il n'était pas envisageable hein, que des femmes deviennent prêtres. Cependant, il a suggéré que il pouvait y avoir une discussion autour du fait qu'une femme pourrait éventuellement devenir diacre. Est-ce que, selon vous, docteur, ce serait une bonne chose pour l'Église ou non que les femmes puissent accéder à ce poste au sein de l'Église? Et est-ce que, selon vous, l'Église serait prête pour arriver à une telle décision?
Le pape, comme successeur de Pierre, a le pouvoir de lier et de délier. Donc, le pape peut bien prendre cette décision sans aucun problème maintenant. Ce qui est le plus important, à mon avis, c'est de savoir si l'Église est prête. Ça qu'il faut peut-être redouter, c'est-à-dire au niveau des mentalités. Nous savons tous le poids des mentalités qui varient peut-être d'un coin du monde à l'autre. Est-ce que si le pape prenait une telle décision, l'unité de l'Église n'en souffrirait pas? Est-ce que la communion de l'Église n'en pâtirait pas? Est-ce que ça ne pourrait pas aboutir à un schisme? C'est ce dont il faudra aussi tenir compte. Donc moi, je crois que peut-être avant de prendre la décision, il faudrait une bonne pédagogie pour expliquer, pour montrer aux chrétiens peut-être plus attachés à une certaine tradition que ça ne devrait pas remettre en question cette Église, le fait que les femmes puissent être admises à exercer un ministère publiquement, un ministère dans l'Église. Mais c'est des mentalités qu'il faudrait d'abord travailler, ce serait le plus dur.
Mais quels seraient les bienfaits selon vous, le fait d'accepter qu'une femme soit diacre? Est-ce que cela permettrait notamment de développer encore plus la confession catholique à travers le monde?
Pour l'exercice des ministères aujourd'hui en Afrique, la courbe des vocations au ministère ordonné est plutôt croissante. Donc, bien sûr, j'ai dit, la femme peut apporter ce qu'elle a de spécifique à l'Église. L'Église en a besoin. Jusqu'à quel niveau, c'est là la question.
Ah oui, en effet, l'Église en a besoin. 700 000 religieuses à travers le monde, c'est ça. Et donc, elles sont majoritaires, les femmes, en fait, au sein de l'Église.
Oui, mais la femme qui devient religieuse ne devient pas d'abord religieuse en vue d'être ordonnée diacre ou après prêtre.
Aujourd'hui, elle n'a pas d'autre choix que d'être religieuse si elle veut entrer dans l'Église en tant que femme. C'est le seul choix qui lui est donné.
Je ne pense pas que si le pape ouvrait la possibilité aux femmes d'être mariées, que ce serait d'abord un problème de religieuse. Je crois que ce serait un problème de la femme tout simplement. C'est-à-dire que c'est toute femme, y compris celle qui n'ont jamais envisagé d'être religieuse dans leur vie. Un prêtre diocésain n'est pas un religieux au sens strict du terme. Or, vous avez des jeunes gens qui aspirent à devenir prêtres dans l'Église sans devenir religieuse.
Docteur, excusez-moi encore une fois, parce qu'ils ont le choix, parce qu'un homme a le choix de devenir prêtre. Un homme, aujourd'hui, peut décider, moi je vais devenir prêtre dans l'Église catholique. Une femme ne peut pas prendre cette décision-là, elle n'a pas le droit.
Si on aborde la question en termes de droit, on risque de passer à côté de l'essentiel. C'est vrai qu'il y a une aspiration, une certaine ouverture, il y a une valorisation du rôle de la femme dans la société aujourd'hui. Ce n'est même pas seulement un problème d'église. Quand vous posez la question, suivez, aujourd'hui, on est obligé de parler de parité dans le domaine, dans le monde politique. C'est des mesures qu'on prend pour inciter peut-être les hommes à faire plus de place aux femmes. Vous voyez que c'est un problème général. Maintenant, dans l'église n'a jamais abordé ce problème-là en termes de droit, avoir le droit à des L'Église aborde toujours ce problème à partir de sa source, à partir de la pratique dans l'Église des apôtres, ce qui se faisait. Maintenant, je vous le dis, lorsqu'on entre aux sources, les sources néo-testamentaires, les femmes ont joué un rôle de premier plan qui n'était pas forcément un rôle qu'on pouvait assimiler à ce qu'on appelle le ministère ordonné. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui animent des communautés. Par exemple, en Afrique, on a ce qu'on appelle des communautés ecclésiales vivantes, qui sont des petites cellules dans les quartiers, dans les villages. On a des femmes aujourd'hui qui sont très engagées dans la catéchèse et autres. Ça veut dire que la femme peut jouer beaucoup de rôles, parfois de premier plan, qui ne sont pas forcément liés au sacrement de l'ordre. Maintenant, si cela était créé, ce serait une nouveauté, ce serait une bonne chose.
C'est bien le fond de la question. Merci beaucoup, professeur Augustin Nessomo. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie et vous êtes le vice-doyen de la faculté donc de théologie de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Un grand merci pour toutes ces précisions. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Entre parenthèses.
La Sénégalaise Fatma Samoura, diplomate onusienne, a été nommée le 13 mai dernier secrétaire générale de la FIFA, devenant la première femme à occuper ce poste au sein d'une fédération secouée par le plus vaste scandale de corruption de son histoire. Pour une réaction, j'ai joint à Dakar Daouda Mine, rédacteur en chef de CNEWeb.
Le Sénégal est très fier de cette nomination. Et je pense que la première autorité du pays, le président de la République, l'a exprimé de fort belle manière en adressant une lettre de félicitations à la dame. Et récemment également, le ministre des Sports, Matar Dok, a également exprimé toute sa satisfaction de voir cette dame accéder à cette instance dirigeante du football mondial. Le sentiment de fierté unanime, que ce soit les populations, que ce soit les autorités du pays, l'ont exprimé de fort belle manière.
Est-ce que l'on s'attendait à une telle nouvelle?
Ça a surpris beaucoup de monde. Ça nous a tellement fait plaisir que ça a fait la une des journaux, que ce soit au niveau des sites web, que ce soit même au niveau des journaux classiques. C'est une excellente nouvelle qui nous sortait un peu du scandale qu'on avait connu dernièrement avec Lamine Diack et son fils qui a été éclaboussé. Je pense que c'est une nouvelle qui nous sortait un peu de ce scandale-là et qui nous a vraiment rendu fiers et fait énormément plaisir. Donc c'est une nouvelle qui nous a surpris, mais agréablement quand même.
Est-ce que vous avez déjà entendu dans votre entourage notamment des petites réflexions déjà un petit peu, on va dire, machistes ou sexistes, du genre « oh là là, une femme, elle va pas tenir le coup » ou des choses comme ça?
Non, on n'a pas encore entendu cela. Mais quand même, nous avons eu à entendre des gens qui l'ont connu, des personnes qui ont eu à côtoyer la dame, l'ancien gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal, Cheikh Seck en l'occurrence, dire tout le bien qu'il connaissait de cette femme-là, qui est une dame de fer, qui est également une dame qui réagissait comme exactement les hommes, et a tout simplement dit qu'il avait un plaisir favorable par rapport à la dame.
Est-ce que vous pensez finalement que le fait que ce soit une femme va permettre d'éviter ce genre de problème de corruption qui ont fait scandale au sein de la FIFA? Autrement dit, est-ce que selon vous, une femme est moins facile à corrompre?
Bon, moi, personnellement, je sais que quand une femme excelle dans un domaine, elle est excellente. Les femmes, quand même, par expérience, sont de très grandes dirigeantes. Même au niveau médiatique, elle est méticuleuse et elle n'accepte pas un certain nombre de choses. Elle va forcément éviter un certain nombre de travers parce que déjà les gens, il y aura forcément des réflexions machistes en disant qu'elle ne va pas tenir le coup. Donc ce sera quelque chose qui va la pousser davantage faire correctement son travail à éviter un certain nombre de problèmes. Donc forcément, je pense que c'est quelque chose qui va la booster, c'est quelque chose qui va aider le football mondial à mieux aller de l'avant.
Est-ce que, selon vous, elle est bien entourée par rapport au fait que, comme nous le savons tous, hein, ce milieu, et particulièrement le sport mondial, est vraiment un milieu de requins, on va dire, hein. Est-ce que vous pensez qu'elle aura une assise suffisante justement pour s'imposer et pour, comme elle l'a dit, faire le ménage, hein, dans cette fédération?
Elle a un parcours. Elle a été dans le système des Nations Unies, donc elle n'est pas une novice. Elle a le profil de l'emploi. Je pense qu'elle est suffisamment préparée et elle a la poigne nécessaire quand même pour faire correctement son travail. Et je pense qu'elle est très bien entrée également parce qu'elle connaît le milieu du sport.
Dernière question, comment le milieu féministe a réagi au Sénégal? Est-ce que les dames là-bas ont fait beaucoup de bruit justement pour applaudir cette nomination?
Pas forcément les dames. Je pense qu'au niveau du Sénégal, on ne sent pas la touche féministe. Bon, les gens ont été unanimes à saluer quand même sa nomination.
Merci beaucoup, Daouda Amine, rédacteur en chef de CNEWeb. À très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup.
Parole de femme.
Amnesty International a lancé une campagne dédiée aux filles au Burkina Faso, où le taux de mariage précoce et forcé est parmi les plus élevés au monde. Cette campagne, qui s'intitule « Mon corps, mes droits », vise à sensibiliser sur le respect des droits de l'enfant et en particulier des filles. Alors j'ai joint à Dakar Samira Daoud, directrice adjointe du bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale.
La question du mariage précoce et forcé est encore très importante au Burkina Faso. Et donc, il nous a semblé important de sensibiliser l'opinion et les autorités sur cette question et sur la question également de l'accès à la contraception qui est encore très réduit dans le pays. Alors, nous avons enquêté au Burkina Faso depuis 2014. Nous avons rencontré plusieurs centaines de jeunes femmes. Et l'obstacle majeur qui est apparu pour l'accès à la contraception est le coût. Le coût qui peut paraître dérisoire quand on est en Europe ou en Amérique du Nord, mais qui représente un réel obstacle pour les jeunes femmes qui souvent n'ont pas de revenus ou des revenus extrêmement faibles. Nous avons pu constater que durant les semaines où la contraception est gratuite, il y a des initiatives qui sont lancées de ce type-là au Burkina Faso, le taux de fréquentation des centres qui offrent des moyens de contraception gratuits est multiplié par 5. Ce qui veut dire que si on rendait la contraception gratuite, l'accès serait clairement augmenté.
Il y a un problème de culture également. Une jeune femme qui voudrait avoir accès à ces types de contraceptifs n'a pas forcément l'acceptation de son entourage.
D'où le nom de Mon corps, mes droits, c'est-à-dire de réaffirmer le fait que c'est à la femme ou à la jeune fille d'être en mesure de prendre la décision de savoir quand elle veut avoir un enfant, si elle veut avoir un enfant, combien elle veut avoir d'enfants. Et malheureusement aujourd'hui, c'est encore trop souvent l'entourage, soit le mari, soit même le reste de la famille, qui exerce une certaine pression sur la femme, ne laissant pas véritablement le choix de savoir si elle veut un enfant ou pas, si elle en veut deux ou six, et quand elle veut les avoir, si elle veut les avoir espacés ou pas. Et donc c'est aussi un travail de sensibilisation que nous avons mené au Burkina Faso et que nous allons poursuivre pour faire en sorte que ce soit véritablement aux femmes de prendre cette décision, puisque il s'agit de leur corps et il s'agit d'un droit aussi à pouvoir décider de ce genre de choses.
Alors vous rappelez justement que finalement, d'une manière générale en Afrique, dans le système des mariages forcés finalement des jeunes filles, l'objectif c'est d'avoir le plus possible d'enfants. Et vous précisez à un juste titre ce qui n'est pas forcément leur rêve à elles, leur volonté. Donc en matière de mentalité finalement, est-ce que vous pratiquez une sensibilisation particulière pour faire comprendre finalement à la société d'être un petit peu moins égoïste vis-à-vis de ces jeunes femmes?
Tout à fait. En fait, Amnesty agit à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'essayer de modifier la législation. Par exemple, concernant le mariage précoce et forcé, il y a bien une loi qui interdit le mariage forcé au Burkina Faso, mais cette loi ne concerne que les mariages prononcés devant un officier d'état civil. Et ce que nous observons, c'est que la grande majorité des mariages qui concernent des toutes petites filles de moins de 18 ans, se font soit devant les chefs traditionnels, soit dans le cadre de cérémonies religieuses. Et donc, une de nos demandes très fortes, c'est justement que cette loi soit amendée de telle sorte qu'elle inclut dans l'interdiction, y compris les mariages religieux et mariages traditionnels. Et enfin, nous avons été entendus par les autorités que nous avons rencontrées et à qui nous avons présenté les conclusions du rapport, qui nous ont indiqué être en train de travailler à une modification de la loi justement dans ce sens-là. Donc ça, c'est un premier aspect, mais ça ne suffit pas parce que quand bien même ce serait interdit, il y a toujours des possibilités de contourner la loi. Et donc, évidemment, il y a un grand travail de sensibilisation qui est nécessaire, que nous faisons depuis déjà plusieurs années et que nous allons poursuivre, justement pour essayer de faire comprendre à ceux qui ne laissent pas aux jeunes filles ou aux jeunes femmes le choix de décider, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas dans leurs droits. Et donc, c'est tout un travail d'éducation aux droits humains que nous menons et dont les autorités burkinabées sont parfaitement conscientes et sont elles-mêmes très... engagés à essayer de sensibiliser la population sur ces questions-là.
À propos de l'âge du mariage notamment, vous précisez, vous rappelez finalement qu'il y a inégalité finalement même dans la loi actuellement et qu'elle pourrait être changée.
Tout à fait, la loi telle qu'elle existe est discriminatoire puisque l'âge du mariage est fixé à 17 ans pour les jeunes filles alors qu'il est fixé plus tard pour les garçons, avec une dérogation pouvant aller jusqu'à 15 ans dans certains cas exceptionnels. Et donc nous, notre demande, c'est évidemment que l'âge légal du mariage soit fixé à 18 ans et soit le même pour les garçons et pour les filles.
Le mariage forcé, c'est une sorte de tradition, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, finalement, qui fait que des familles s'entendent sans prendre en compte, finalement. On parle de l'intérêt de l'enfant, mais en fait, en fin de compte, ce n'est pas l'intérêt de l'enfant, comme vous l'avez dit, c'est plutôt l'intérêt de la famille, parce qu'on parle finalement d'échange de biens, d'argent et de services. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une pratique particulière dont on n'avait pas forcément connaissance, la pratique du poglenga ou femme bonus?
Alors en fait, le principe de donner sa fille en mariage alors qu'elle a 13-14 ans, ça vient du fait que les parents craignent que leur jeune fille contracte des grossesses précoces hors mariage. Et donc plutôt que d'opter pour une forme d'éducation sexuelle de leur fille et de leur fils, le choix qui est fait par les parents, c'est de les marier. Donc il y a tout un travail évidemment à faire pour que les mentalités changent et qu'on arrête de considérer que parce qu'il y a toute une somme d'irresponsabilité en quelque sorte, c'est-à-dire que les jeunes garçons ne reconnaissent pas les enfants dont ils sont pourtant le père. Les parents ne reconnaissent pas véritablement leur faiblesse en matière d'éducation. Et du coup, tout repose sur la jeune fille qui se retrouve, elle, à devoir assumer la responsabilité en étant mariée très jeune. Donc, il y a tout ce travail de sensibilisation pour qu'on inverse la charge de la responsabilité. Ce que je veux dire aussi, c'est que la question du mariage forcé traverse toutes les ethnies et toutes les religions. Il y a aussi la pratique qu'on appelle du poklenga, c'est-à-dire que une jeune femme se marie et elle emmène avec elle une petite nièce, une sœur, une cousine, qui va être en quelque sorte offerte en mariage, soit au mari, soit au frère du mari ou à un membre de la famille. C'est une manière un peu de sortir cette jeune fille de la pauvreté. Enfin, c'est comme ça, évidemment, que c'est conçu. Mais en même temps, c'est une manière de nier les droits de cet enfant, un, à poursuivre son éducation à l'école, et deux, à choisir, évidemment, l'âge auquel elle va se marier et la personne qu'elle va épouser.
Merci beaucoup, Samira Daoud, directrice adjointe du Bureau régional pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et à très bientôt.
Merci à vous.